belles choses sur les affiches, dans les vitrines des jouets de riches. Je suis mal parti pour durer ici, et la nuit, les bars, les troupeaux du désespoir. C'est beau Paris, un pas, deux pas, trois parisiens. Garde ton pas, je garde le mien. La capitale se fout de moi, et mon peuple, il n'existe pas. Faut-il vivre ailleurs, ou apprendre par cœur les noms des rues et des critiques repues du beau Paris? À Montparnasse, j'ai cherché un taxi. En bas de la tour, je me sentais à l'abri. À ce que j'étais fière de mon pays. J'ai pas serré de main, j'ai sauté dans mon train. Oh, c'est beau Paris, un pas, deux pas, trois parisiens. Garde ton pas, je garde le mien. Un pas, deux pas, trois parisiens. Garde ton pas, je garde le mien.
Vous êtes toujours dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zoo 93.8, et nous suivons la nouvelle polar Salut et Liberté, écrite par Fred Vagas, une femme reine des crimes. Depuis deux semaines, et durant les deux semaines qui suivirent, aucune lettre anonyme ne parvint au commissariat. Jean-Baptiste Kadamsberg, qui guettait l'heure du courrier avec une passion inusitée chez lui, avait passé toutes les phases de l'amour dépité, de l'espoir à la rumination. Il en était au dernier stade, c'est-à-dire rébellion et hauteur. Et il jouait désormais l'indifférence quand le paquet de lettres parvenait à son bureau. Le rapport du labo avait été décevant. Ni le papier, ni l'enveloppe, ni la colle n'avaient révélé quoi que ce soit de curieux. Les lettres avaient été découpées avec des ciseaux petit format et non pas au rasoir. Aucune trace de doigt. Aucune faute d'orthographe. Les caractères provenaient probablement du quotidien régional La Voix du Centre. Ce qui ne menait à rien car l'enveloppe avait été postée de Paris et l'on trouvait ce journal dans toutes les gares. De l'auteur, enfin, on pouvait supposer qu'il était cultivé et méticuleux. Toutes ces bribes d'informations ne conduisaient nulle part. Adamsberg les savait par cœur. La nonchalance rêveuse du commissaire était rarement entaillée par les remous des affaires criminelles. Il se laissait porter sans impatience par les circonstances des enquêtes jusqu'au dénouement pressenti. Il savait attendre des semaines ou des mois si nécessaire avant de viser le but, ce qui exaspérait Danglars. Il savait viser tranquillement. Pendant son année à l'armée, il s'était trouvé tireur d'élite. Et ses supérieurs le trimbalaient de concours en concours comme un imbécile. Il avait passé toute son année à tirer dans des bouts de carton. Il n'avait jamais appris à viser. Il ne s'était jamais entraîné. Le moment venu, il épaulait lentement. Il visait, il tirait. Une bonne planque, ça ne tuait que le carton. Il avait l'impression d'agir un peu de même dans ses enquêtes, de déambuler, loin des marches forcées, et puis le moment venu, de viser. Il pensait qu'il percevrait l'instant où l'assassin passerait dans son territoire, qu'il en serait d'une manière ou d'une autre alerté, et qu'alors il agirait. Danglars disait que c'était des conneries. Adamsberg ne lui donnait pas tort, mais il surveillait malgré tout son territoire. Il y laissait flotter son regard comme un filet sous les vagues. Laisser flotter son regard était l'une de ses occupations préférées. Cette fois, les choses se passaient un peu différemment. Il flottait moins bien. Il n'y avait pas d'enquête et pas de crime. Et pour une simple lettre qu'il avait traitée de con, il était aux aguets et mécontent. Pour cette raison, il estimait que le type avait dès le début pris l'avantage sur lui. L'absence, à l'opposé, l'absence de lettres conforta Danglars dans le peu d'intérêt qu'il avait porté à ce courrier. En revanche, la présence pesante de Vasco de Gama, toujours porté sur son banc, le contrariait de jour en jour, chaque jour un peu plus. Tous les soirs, Vasco remportait son valet ou pendait à présent, en plus du vieux veston, un pantalon presque assorti. Hier matin, l'arrivée de Vasco avec un lampadaire de bureau avait anéanti Danglars. C'était un lampadaire haut comme un homme, à la tige rouillée, à l'abat-jour en métal vert foncé. De la fenêtre du couloir, il vit Vasco lui faire un signe de la main, poser sur le banc un carton de biscuits, un sac de pistaches et installer son lampadaire en vis-à-vis du valet, comme pour se donner de la lumière, afin de lire confortablement. Vasco avait transporté tout son équipement sur un diable bon pour le rebut. Il se recula de quelques pas pour juger de l'effet sur son nouveau salon, disposa ses sacs en plastique par terre et aligna quelques décombres qu'il sortit de ses poches après un examen scrupuleux. Et il se prépara à lire. Collé à la vitre, Danglars était déchiré entre le désir répressif de le foutre au clou pour vagabondage et perturbation de l'ordre public et l'envie sourde d'aller s'asseoir sur le banc à ses côtés, en plein soleil, sous ce lampadaire qui ne fonctionnait pas. Il entendit Adamsberg s'approcher. Le commissaire se plaça à côté de lui, le front contre la vitre. « On dirait qu'il s'installe, » dit Adamsberg. « Il faut faire dégager ce vieux fou, il m'énerve, il me perturbe. Il ne faut pas y toucher pour le moment, il n'est peut-être pas fou. Vous lui avez déjà parlé? Vous n'avez pas vu qu'il déraillait? À chacun sa croix, comme il dit. Le jour où il a apporté le valet, c'était quand? Ça fait 16 jours aujourd'hui. » Il y a eu la lettre juste après. Danglars le regarda sans comprendre. Oui, le lendemain matin, qu'est-ce que ça peut faire? Rien. Je vois qu'hier, il a apporté un lampadaire. Et alors? Alors, aujourd'hui, il y a une lettre au courrier. Danglars observa Adamsberg avec incrédulité. Un lampadaire, dit-il en haussant les épaules, n'a rien à faire avec une lettre? C'est certain, dit Adamsberg. C'est juste une coïncidence qu'on ne peut pas s'empêcher de remarquer. En faisant un effort, on peut très bien s'en empêcher. Entendu. Mais venez lire la lettre d'Anglars. La lettre et l'enveloppe étaient déjà glissées dans une pochette en plastique. Les caractères étaient aussi soigneusement alignés que dans la précédente. 20 juillet. Monsieur le commissaire, vous attendiez de mes nouvelles? Vous vous désespériez de mon silence? Êtes-vous soulagé ce matin? Il s'en est pourtant fallu d'un cheveu que je ne vous laisse tomber. Vous êtes si con dans la police. Vous ne distinguez que les énormités et vous ne pouvez pas m'atteindre. Ne vous inquiétez nullement. Vous ne m'inquiétez nullement. Pour moi, vous êtes déjà un vaincu. Salut et liberté. X. Mélange de brutalité et de préciosité, commenta Danglars. Le type a besoin de parler, il allonge son billet. Ça en fait des petites lettres à coller. C'est un patient, un méthodique. Les caractères sont aussi bien alignés à la fin qu'au début. Il dit sans doute la vérité. Il a dû hésiter avant d'écrire encore, avant d'entrer dans l'engrenage. Il a dû peser le pour et le contre entre le risque et l'envie. Pour le moment, il ne risque rien. Mais c'est vrai que l'engrenage est prêt à tourner, à moins qu'il n'hésite à nouveau. L'enveloppe est un peu froissée, elle a séjourné dans sa poche. Soit le type réfléchit avant de passer à l'acte, soit il vient jusqu'à Paris pour poster sa lettre. Elle n'est pas partie du même bureau de poste, il a changé de boîte. Son crime, vous y croyez? Je ne sais pas, il me semble que oui. On ne sait ni où, ni quand, ni qui. Je sais, Danglars, on ne va pas fouiller tout le passé de la France. C'est l'impuissance, à moins qu'on ne tienne un point de départ. Dans la lettre? Dans la rue. Un point de départ qui nous regarde depuis un mois et demi sur le banc d'en face. Danglars s'assit lourdement et laissa tomber les épaules. « Non, » dit-il. « C'est comme ça, mon vieux. Il se trouve que ce type est là. Les deux trucs sont emmêlés. »« Forcément, c'est emmêlé, » dit brutalement Danglars. « Ce sont les seules choses notables qui se soient produites depuis le début de l'été. Mais ce n'est pas parce qu'ils existent ensemble qu'elles fonctionnent ensemble. On ne peut pas toujours tout confondre. » Atansberg avait attrapé une feuille de papier et s'était mis debout pour dessiner. Depuis que le commissaire était arrivé à ce poste, Danglars l'avait vu griffonner des centaines de feuilles. Parfois, le soir, il arrivait à Danglars d'aller en récupérer dans la corbeille à papier. Adamsberg avait abandonné la série des feuilles d'arbres pour passer à des fragments de visage et à des mains. « Tenez, dit Adamsberg, en tendant la feuille à Danglars. J'ai fait votre portrait. Je vais marcher. Je reviendrai. » Bien sûr, il reviendrait. Pourquoi disait-il toujours cela ? Sans doute, jugeait Danglars, parce qu'il craignait un jour de ne pas vouloir revenir, de marcher tout droit jusqu'aux montagnes, et qu'il préférerait se prémunir contre lui-même. Danglars entendit la porte du commissariat se refermer doucement, et il regarda Adamsberg s'éloigner dans la rue, débraillé, les mains dans les poches. C'était la première fois qu'Adamsberg lui faisait le coup du portrait. Il jeta au dessin un œil prudent, mais un œil de biais, puis un autre, plus assuré. Ce portrait paraissait vouloir le réconcilier avec lui-même, et cela l'émut en vrac. Danglars s'émouvait facilement. Il estima qu'il fallait un verre de blanc pour maîtriser cette faiblesse. C'était en réalité une émotion résistante qui demanda pas mal de verres pour s'apaiser. Avant midi, Danglars était hors d'usage.
Lorsque s'éteint la ville et que dorment les parents, toutes les jeunes filles se lèvent prudemment. Toutes les filles en sautillant, tenant leurs escarpins délicatement. Elles s'en vont malgré le vent dans les bois et dans les champs pour s'allonger dans les bras de leurs amants. Dans les bras anonymes, 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 anonymes de l'amour. Quand s'endorment les filles, que font donc leurs amants ? Ils partent vers la ville à travers bois et champs. Toutes les femmes mariées ont laissé leurs persiennes entrebâillées. Et pendant que leur mari rêve de la femme de l'ami, un intrus se glisse au lit amoureusement. Dans les bras anonymes, 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 anonymes de l'amour. Lorsque reposent leurs femmes, blottis contre l'amant, les maris, l'œil en flamme, escaladent les couvents. Et les nonnes qui croient rêver, s'imaginant serrer leurs oreillers, stupéfaites se réveillent dans les bras de sous-préfets qui leur chuchotent à l'oreille la bouche en biais. Je serai anonyme, 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 mon amour.
Trois nouvelles lettres arrivèrent en l'espace d'une semaine. Posté de différents quartiers de Paris, Adamsberg en ressentait un tel contentement qu'il sifflotait souvent, n'adressait aucune remarque à Danglars pour le vin blanc en matinée et dessinait plus encore que de coutume. Les cinq lettres étaient épinglées dans leur sachet plastique sur son mur. Il ne pouvait plus s'en séparer. Danglars disait au commissaire qu'il était intoxiqué par le tueur et Adamsberg ne répondait pas. Régulièrement, il se levait et s'arrêtait devant son mur et il relisait. Danglars le regardait faire. 23 juillet. Monsieur le commissaire, évidemment, vous n'arrivez à rien. Vous avez beau lire et relire, vous savez que vous n'avez aucune chance. Votre désarroi fait plaisir. Je songe à un nouveau crime. Les flics sont si cons. Je l'exécuterai à mon heure, sans aller par quatre chemins. Qu'en dites-vous ? Je vous préviendrai peut-être. Salut et liberté. X. Cet empoulé, murmura Adamsberg, c'est pesant, c'est pénible. Pourquoi ? C'est la question. Son regard passa à la lettre suivante. 26 juillet. Monsieur le commissaire, mes lettres vous déçoivent. Rien qui vous permette d'attraper le premier fil qui vous remonterait jusqu'à moi. Sachez en outre que mon apparence est quelconque. Yeux communs, cheveux ordinaires, signes particuliers néant, je n'ai rien de plus à vous offrir. Salut et liberté. X. Puis enfin, à la dernière reçue. 28 juillet. Monsieur le commissaire, on commence à bien se connaître tous les deux, n'est-ce pas ? Dommage que je ne puisse vous lire en retour. La journée a été plutôt morne. Inutile de vous décourager, vous êtes un incapable. Mais n'importe qui aurait échoué. J'avais préparé mon coup au quart de poil. Pas d'embarras entre nous, je suis un assassin, vous êtes un flic. Nous ne sommes pas faits pour nous rencontrer. Salut et liberté. X. Adamsberg passait de l'une à l'autre, sifflotait, reprenait sa place. À présent que l'assassin ne pouvait plus s'empêcher d'écrire, il était tranquillisé. Mais il n'en livrerait guère plus. Il se bornerait sans doute à écrire en rond pour le plaisir d'exister et l'envie de plaire, sans se découvrir. Il oscillait entre l'insulte et la confidence, assez hargneux pour oser, assez malin pour se retenir. Adamsberg avait l'impression que ses confidences étaient dictées par le souci étrange de gagner l'indulgence du commissaire. Comme si l'auteur estimait qu'on n'abuse pas ainsi du temps et de l'attention d'autrui sans offrir une petite compensation en échange. Les petits cadeaux ne valaient pas grand-chose, mais ils permettaient à leur auteur de poursuivre sa correspondance. « C'est quelqu'un de poli, » conclut Adamsberg. « Vous ne voyez rien d'autre ?» dit Danglars. « Si, les cheveux. »« Ah, vous aviez remarqué ?»« C'était là, dès sa deuxième lettre. Il met des cheveux un peu partout. Il y pense trop, ce type. Dans la dernière lettre, il n'emploie pas le mot chevaux, cheveux. Non, il écrit au quart de poil, mais c'est la même chose. » Danglars eut un geste de doute. « Il n'y a rien non plus dans la lettre du 23. » dit-il. « Si, mon vieux, sans aller par quatre chemins. C'est la même chose que sans couper les cheveux en quatre. Il y a donc encore du cheveu à l'état souterrain dans cette lettre-là. » Danglars grommela. « Si, Danglars, c'est sûr, ça marche comme ça. Le mot tourne, s'éclipse, mais c'est l'idée et elle est bien là. C'est curieux, soupira Danglars. Il y a des tas de types qui s'intéressent aux cheveux. Moi, ça ne me fait pas grand-chose. À chacun sa croix, mon vieux. Quoi d'autre ? Les dates des envois. 23, 26, 28, ça me paraît pas probable que le type puisse habiter très loin et venir tous les deux jours à Paris pour poster son courrier. Il doit habiter la capitale ou les environs. On peut acheter la voie du centre dans toutes les gares, si on surveillait les gares. » Adamsberg secoua la tête. Danglars le trouvait moche à présent, alors que tout à l'heure, il n'était encore pas si mal. Comme le commissaire le contredisait, Danglars le trouvait subitement moche. Le lieutenant s'interrogeait du même coup sur sa propre inconstance, autant que sur la relativité des jugements esthétiques. Si la beauté s'enfuit si tôt qu'on s'exaspère, quelle chance avait-elle pour survivre en ce monde ? Et sur quoi fonder les critères stables de la beauté réelle ? Et où se trouve cette foutue beauté réelle ? Dans une forme hors tout ? Dans la jonction d'une forme et d'une idée ? Dans l'idée que suggère une forme ? « Merde, » dit Danglars, « je suis perdu dans la question de l'esthétique et dans tout le fatras qui va avec. »« C'est un sale problème, » dit Adamsberg. « Ça fait très longtemps qu'il dure. »« Ça me donne soif, » dit Danglars. « Pas maintenant. On en était au gare. Je ne crois pas que notre type habite forcément Paris ou sa couronne. Les cinq enveloppes ont traîné dans sa poche, méticuleux comme il est. Il ne doit pas reculer devant quelques allées et venues pour améliorer sa couverture. Pas question de perdre du temps dans les gares. On ne gagnerait rien à démarrer de là. » « Mais faut-il absolument démarrer ? Faut-il absolument s'occuper de ces 100 lettres de merde ?»« Ça mérite réflexion, » dit Adamsberg en tirant une nouvelle feuille de papier de son tiroir. Le commissaire dessina quelques instants pendant que Danglars reprenait en silence son affaire de beauté relative, sachant qu'il n'y avait pas d'issue à la question. « Et ça nous ramène à Vasco, » reprit Adamsberg. « Il n'a rien apporté depuis le lampadaire et pourtant il y a trois nouvelles lettres. Vous voyez que ça n'a rien à voir. » « On va démarrer de là, de Vasco, » insista Adamsberg. « Ça n'a pas de sens, » dit Danglars. « Ce n'est pas grave, on s'occupera des questions de sens plus tard. J'ai besoin de savoir ce que ce bonhomme fabrique en campant devant notre porte. » Et à cette heure-ci, ce n'est plus la peine, il est déjà parti avec tout son chargement. Aucune importance, ça peut attendre demain.
En blanc. Et chez les chambrières sommeillent les présidents. Et la lune dans son quartier illumine les alcôves parfumées où se roulent les charbonniers donnant de fougueux baisers à des dames distinguées en pavoison. Dans les bras anonymes, 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 anonymes de l'amour. Cette histoire se passe très loin d'ici. Que personne ne s'en fasse dans notre doux pays. Les amants ramassent les femmes perdues. Les jeunes filles seules, les photos sont émues. Leurs parents sont gens fidèles, les nonnas leurs âmes veillent. Tout ce monde ne connaît pas les tentations. Des plaisirs anonymes, 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 anonymes. De l'amour, de l'amour, de l'amour.
La soirée fut très chaude, on pouvait se promener en chemise. Danglars transpirait en remontant chez lui ses provisions. Il avait acheté des pommes de terre et des saucisses pour les dîners de ses enfants, et puis des fraises. Depuis 2 jours, les 5 enfants partaient en vacances, dans 2 jours, et il n'avait pas encore réfléchi à la manière dont il meublerait cette courte solitude. Il pensait surtout qu'il dormirait beaucoup et qu'il boirait sans doute pas mal, ce qu'il ne pouvait pas faire en toute aisance devant le regard contrarié de ses filles. Danglars épluchait les pommes de terre, il se trouvait doué pour ce truc. Arlette disait qu'il laissait de la peau, mais Danglars n'aimait pas perdre son temps pour des broutilles. Il avait décidé que le meilleur était dans la peau. Danglars pensait au lampadaire de Vasco de Gama. Il aurait été curieux de voir la chambre où Vasco habitait, dans une petite rue du 14e arrondissement. Le vieux lui en avait montré une photo noir et blanc, et c'était si encombré que Danglars n'avait pas su identifier le plancher du plafond. Vasco lui avait dit « Le bas est ici », en retournant la photo d'un air offusqué. Adamsberg n'en tirait rien demain. Adamsberg était fou. Il était temps que septembre revienne avec quelques bonnes affaires authentiques. L'été n'était fait que de paperasseries chaudes, de trompe-l'œil et d'interrogations fantasmatiques. À son avis, l'été ne valait rien de bon à Adamsberg. Il aurait mieux fait de partir dans sa montagne au lieu de tourner comme un fauve autour de ses 5 malheureuses lettres. C'est-à-dire un fauve de petit format, corrigea mentalement Danglars. Quelque chose de pas grand, genre lynx, disons. Danglars claqua la langue, mécontent, en versant ses pommes de terre dans une cuvette pour le rinçage. Mais non, Adamsberg n'avait rien à voir avec un lynx ou n'importe quoi de cet ordre. En ce moment, il devait être dehors à se promener avec un crayon dans la poche arrière. Danglars l'enviait un peu. Adamsberg traînait sur les quais de Seine. Comme beaucoup de provinciaux, il aimait cette balade alors que les Parisiens trouvaient que ça sentait surtout la pisse. La grosse chaleur de la journée avait tiédi les pierres du parapet sur lequel il s'était assis. Adamsberg, patient, attendait l'orage. Celui-ci commença par un bon coup de vent et par de petites gouttes d'eau, hésitantes, qui lui firent craindre qu'il n'avorce. Mais finalement, il y eut tout. Les explosions, les éclairs redoublés, le déluge d'eau. Assis, les mains posées sur le parapet, Adamsberg n'en perdait pas une miette. Les gens avaient fui en courant. Il était seul dans le soir au bord de la Seine. De l'eau coulait déjà en torrent sous ses pieds. Ce vacarme venait à merveille après ces journées où il n'avait fait que boucler des dossiers, attendre le facteur et regarder Vasco de Gama cracher des noyaux. Son pantalon lui collait pesamment aux cuisses. Il avait l'impression de ne plus pouvoir bouger, d'être englouti sous la masse d'eau, mais d'être en même temps le centre et l'ordinateur de l'orage. Cette puissance immense, acquise gratuitement, sans effort ni mérite, le ravissait. Adamsberg essuya son visage ruisselant. Si l'assassin avait su trouver son quart d'heure de gloire à chaque orage comme lui, il s'était vraiment pris pour Dieu à chaque déluge comme lui. Il n'aurait jamais, jamais, peut-être, tué personne. Il fallait croire que les orages laissaient l'assassin indifférent, et c'était bien dommage. L'inquiétant était ce second meurtre auquel il se préparait. Adamsberg avait tendance à croire que cette menace n'était pas une simple forfanterie, que quelqu'un pouvait être en danger, mais une fois de plus, qui et quand ? C'était bien cet aspect fantomatique qui l'attirait, cette enquête qui n'était faite que de vide et d'absence d'obscurité. Profondément satisfait, Adamsberg écoutait l'orage qui s'éloignait maintenant. Le bruit de la pluie qui changeait de registre en douceur. Il remua les bras, comme pour voir s'il marchait toujours. Et comme s'il revenait d'un monde très éloigné, il se mit à remonter prudemment les marches pour regagner le quai. Il savait dans quel café Vasco passait le début de sa nuit, et s'attablant à droite ou à gauche, parasitant les conversations des dîneurs, s'évertuant à vendre son hebdomadaire tout écrit et décoré main et photocopié. Il l'avait suivi plusieurs fois au cours des 15 derniers jours, sans rien en dire à Danglars, et qui n'était pas encore mûr pour s'intéresser sincèrement au vieux. Ça viendrait. Adamsberg avait une complète confiance en Danglars, et chaque fois, Vasco avait fini sa soirée dans ce bar américain, relativement cher, où il connaissait tout le monde, où il finissait par dîner gratuitement, en grappillant à chaque table. Adamsberg passa d'abord chez lui. Il essuya, enfila ses déshabits secs et chiffonnés, puis à pied toujours, il rejoignit le bar américain. Il était 11h30, le pianiste jouait, les gens bouffaient, quelques solitaires épiaient les autres. Vasco avait étalé le contenu d'une de ses poches sur une table. Il l'examinait d'un œil sourcilleux. Tout était normal. Adamsberg, assez fatigué par tout le boulot que lui avait donné cet orage, se laissa tomber sur une banquette et commanda à dîner. Vasco se retourna et le regarda avec attention. Adamsberg se servit un verre de vin et commença à vider la corbeille de pain en attendant son plat. Il ne fit même pas signe à Vasco de se rapprocher. Il savait qu'il viendrait à sa table. Après un court moment, Vasco replia ses affaires. Cela prenait toujours pas mal de temps. Il glissait des bouts de machin dans des enveloppes qu'il fourrait dans des sachets en tissu. Il enfournait ensuite le tout dans ses poches, au hasard, semblait-il. Après avoir tout ramassé, il vint s'asseoir en face d'Adamsberg et commença à tout revider. Adamsberg écoutait ses commentaires tout en mangeant. Cette voûte d'objets disparates et les explications dont les entourait Vasco l'hypnotisaient. Il eut droit à nouveau à la photo du père, de la mère, de l'inconnu, de Valentin, à la boîte d'allumettes décorée, à la brindille, au cendrier jaune, et puis aussi à la photo de sa chambre dont il ne put distinguer le haut du bas et qui énerva Vasco, qui dit que les flics étaient décidément tous pareils, à beaucoup de fragments de papier sur lesquels Vasco gribouillait des notes illisibles et des tentatives de dessins paysagistes, à des échantillons de tissu, à une boîte de savonnette d'hôtel, un bobineau de fil de lin et un noyau d'olive ciré par l'usure. Adamsberg voyait la table se couvrir peu à peu de ce bric-à-brac sacré. Détendu par le spectacle, il en venait à penser, comme Danglars, qu'il était inepte de questionner le vieux, que personne n'aurait l'idée de mener ce genre d'interrogatoire. Mais c'est justement parce que ça n'avait pas de sens qu'Adamsberg était tenté. S'il avait été au bureau, il aurait sans doute renoncé. Mais dans ce bar, à la fin de son dîner, il pouvait discuter avec Vasco sans que personne ne s'en soucie. Il eut du mal à interrompre l'énumération du vieux, qui enchevêtrait maintenant ses commentaires d'extraits de poèmes et d'anecdotes décousues. Adamsberg n'avait encore rencontré personne qui passât aussi vite d'un sujet à un autre. Il lui remplit son verre pour la cinquième fois. Le débit de Vasco s'accélérait. Il tapait sur l'épaule d'Adamsberg et lui disait qu'il était un type fortiché et patent, et ses résistances fléchissaient. Car Adamsberg percevait clairement que, quelque chaleureuse soit la nature de Vasco, un sourd instinct lui commandait de prendre garde aux flics, ce en quoi il ne pouvait que l'approuver. Et malgré le vin, il se recroquevilla un peu quand Adamsberg commença à le questionner à brûle-pourpoint. « Ce coup-ci, Vasco, j'ai envie d'avoir des réponses. » Et même, j'en ai besoin. Je ne veux pas que tu me dises que tu t'assieds là parce qu'il y a un banc. Ce n'est pas vrai. Tu te fais chier sur ce banc, ça crève les yeux. Dès que 5h sonne, tu vides les lieux comme un écolier à la fin des classes. Tu ne te mets pas là pour ton plaisir. Tu te trompes, commissaire. Tiens, aujourd'hui, une femme dans la rue a perdu sa pochette, je te l'ai dit ça. Tu sais, une pochette, un petit foulard qu'on froisse dans une poche poitrine.